accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Il ne fait pas bon être un journaliste ou un écrivain critique du pouvoir en Turquie ces jours-ci. La romancière Aslı Erdoğan est devenue le symbole de cet acharnement gouvernemental. Elle vient de passer 4 mois en prison en raison de son combat pour les droits de l'homme et pour ses écrits dans un journal pro-kurde, Özgür Gündem, désormais interdit. À Istanbul, Anand Lawar a rencontré une femme ébranlée mais déterminée, soutenue par un collectif international.
C'est une femme très mince, aux yeux clairs, au teint de porcelaine sous des traits tirés, qui vient de passer 136 jours derrière les murs d'une prison. C'est en même temps une femme forte, pleine d'esprit et d'empathie, qui pèse chaque mot qu'elle prononce et refuse de s'apitoyer, mais confie ne rien comprendre à ce qu'elle a déjà subi. Aslı Erdoğan, 49 ans, romancière, est accusée de propagande et d'appartenance à un groupe terroriste. Remise en liberté sous condition le 29 décembre, elle se dit encore sous le choc.
Comme on dit en turc, je me sens comme un poisson hors de l'eau, égaré, ahuri, un peu comme une enfant. La prison vous infantilise, vous n'avez aucun droit ni aucune responsabilité. Et quand vous vous retrouvez à nouveau dehors, il faut grandir d'un coup, réapprendre à téléphoner, à gagner de l'argent, à choisir entre 10 fromages et 50 biscuits au supermarché. Tout me fatigue. Je tremble à la vue de la moindre arme. Elle me rappelle la nuit où une vingtaine de policiers masqués sont venus me chercher en pointant leur arme sur moi.
Les charges qui pèsent sur Aslı Erdoğan sont très lourdes. Citant certains de ses écrits dans le journal pro-kurde Özgür Gündem, désormais interdit, le parquet l'accuse non seulement d'avoir fondé et soutenu le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, dont elle aurait été membre, mais aussi d'avoir attenté à l'unité et à l'intégrité de l'État.
Je risque une peine incompressible de prison à vie. À quel juge puis-je me fier? Dans l'état de non-droit actuel, tout est possible. Sérieusement, est-ce que je ressemble à un membre fondateur du PKK? Puisqu'on en est arrivé là, on peut se demander jusqu'où ça va aller. Je ne suis pas membre du PKK, tout le monde le sait. Je n'ai pas choisi cette vie-là il y a 30 ans. Je ne sais même pas par où commencer ma défense. Ce procès est entièrement politique. Quelqu'un a décidé que j'allais trop loin, a donné l'ordre de m'enfermer et je n'ai aucun moyen de savoir quand ça se terminera. Peut-être jamais, c'est une torture psychologique.
Des dizaines de journalistes, intellectuels, universitaires et avocats ont été emprisonnés ces derniers mois dans le cadre des enquêtes liées au PKK. Mais l'incarcération d'Aslı Erdoğan a provoqué une campagne de solidarité inédite en Turquie et à l'étranger. Un recueil de ses écrits vient de paraître en France. L'écrivaine ne s'attendait pas à un tel soutien ni à un tel succès pour ses œuvres.
Comme tout auteur, je devrais me réjouir d'être lu davantage. En prison, les jours où je ne pensais pas en sortir vivante, je me disais qu'au moins mes livres me survivraient. Mais je me sens morte à l'intérieur. J'ai le cœur en petits morceaux, comme de petits copeaux de bois. Le succès n'est pas une consolation, je n'arrive pas à en profiter. Peut-être que c'est ce qu'il me fallait apprendre, que le succès n'a pas tellement d'importance et à quel point la vie peut être cruelle et injuste.
La semaine dernière, Pen International, réseau de défense des écrivains dans le monde entier, a mené en Turquie sa plus grande mission à ce jour. 23 de ses membres ont rencontré des journalistes persécutés, des chefs de l'opposition et le ministre de la Culture. Pour l'écrivain catalan Carles Torner, directeur de Pen International, la situation est d'autant plus grave que les années 2000 avaient été une période pleine d'espoir pour les écrivains turcs.
Nous devons le dire, la Turquie a devancé la Chine dans le nombre d'écrivains emprisonnés. Elle est la championne. Pour moi, c'est particulièrement dur. J'étais très particulièrement en lien avec la présentation de la Turquie à la Foire du Livre de Francfort en 2008, qui était un vrai spectacle culturel, vraiment quelque chose d'une densité. Dans l'exposition, on voyait les premiers imprimeurs juifs à Istanbul et les anciens manuscrits arméniens, les textes kurdes, toute la tradition littéraire grecque, toutes les dimensions de la littérature turque. C'était vraiment une présentation de la Turquie comme un pays multiculturel, multireligieux, multilingue, d'une richesse extraordinaire. On voit comme tout cela a été comme une fleur d'été qui se fane tout de suite. Et en ce moment, Tout le débat est d'une violence, d'une non-acceptation de l'altérité.
Inquiète pour son sort et celui de ses collègues, la romancière Aslı Erdoğan l'est aussi pour l'avenir de son pays. La guerre contre le PKK ne montre aucun signe de répit. Le groupe kurde multiplie les attentats, tout comme Daesh, auteur d'une série d'attaques dans les grandes métropoles. Une spirale infernale de violence et de mort qui affecte l'écrivaine autant que son procès.
C'est trop facile de dire que des forces étrangères complotent contre la Turquie. Nous sommes aussi responsables de ce qui nous arrive. Un langage de violence et de guerre s'est développé. La polarisation augmente au sein de la société. D'un côté, il y a ceux qui soutiennent le président Erdogan, quoi qu'il fasse. De l'autre, il y a ceux qui le détestent aveuglément. Nous sommes devenus une société chaotique et violente. Des gens réclament la peine de mort. Normalement, on réclame du travail, la baisse des impôts, mais la mort, ça m'effraie. La Turquie a un besoin urgent de démocratie, de dialogue, de paix. Mais je n'en vois aucun signe.
Remise en liberté, Aslı Erdoğan reste néanmoins sous contrôle judiciaire, avec interdiction de quitter la Turquie. À Istanbul, elle attend la prochaine audience le 14 mars.
Et en Pologne, certaines voix ne sont pas non plus du goût du parti conservateur PiS au pouvoir. Le Centre de Monitoring des Actes Racistes, une ONG qui, comme son nom l'indique, recense toutes les attaques à caractère raciste ou antisémite, risque de voir ses dotations financières coupées et une pétition réclame désormais son interdiction à Varsovie. Maya Szymanowska.
Le prêtre défroqué ultranationaliste Jacek Międlar peut jubiler. La pétition signée par des milliers de personnes pour fermer le centre de monitoring des actes racistes et xénophobes va être examiné par le parquet régional de Varsovie. Une victoire dans cette guerre que se livre cet ancien ecclésiastique connu par ses propos racistes, souvent antisémites ou anti-arabes, et l'association. L'ONG Ośrodek Monitoringu do Spraw Ksenofobii i Antysemityzmu existe depuis 2014. Elle a été fondée par une vingtaine de personnes liées à la troupe théâtrale Trzeźwe et qui depuis quelques années surveille les réseaux sociaux, les déclarations médiatiques et les espaces urbains en traquant les propos xénophobes et antisémites pour les dénoncer auprès de la police et de l'appareil judiciaire. Récemment, le chef de l'ONG Rafał Gaweł a alerté sur la recrudescence des actes racistes visant les ressortissants d'origine arabe. Au début de l'année, en effet, une vague de violence a secoué le pays. Plusieurs restaurants de kebab ont été saccagés par les hommes cagoulés. Des graffitis anti-islam ont couvert les murs de plusieurs villes après une altercation dans la ville d'Eouk où un homme d'origine tunisienne a poignardé un ressortissant polonais agressif. Les propos anti-arabes de l'ancien prêtre Jacek Międlar ont souvent été dénoncés par l'ONG. À l'automne dernier, avant de quitter l'église, du haut de sa chair, il s'insurgeait contre l'invasion des envahisseurs islamistes et ne semblait pas voir de différence entre musulmans et islamistes. Jacek Międlar dénonce aujourd'hui dans sa pétition une ONG qui bloquerait les pages Facebook des bons citoyens aimant Dieu et leur patrie et qui les accuserait à tort d'être fascistes. Le parquet n'a pas encore pris sa décision, mais il est sous intense pression médiatique avec une presse conservatrice qui mène campagne pour la fermeture de l'ONG.
Oggi assistiamo a uno spettacolo unico, noto anche per la qualità dei suoi ingredienti. Qui per le prossime settimane, vicino a una verde e rigogliosa foglia di lattuga, il gusto della pregiata carne chianina, proveniente da fertili terre italiane, incontrerà una...
Certains diront que les marchands du temple étaient installés depuis bien longtemps déjà aux abords de la basilique Saint-Pierre de Rome, mais l'ouverture le 30 décembre dernier d'un McDonald's tout près du Vatican a suscité une belle polémique, d'autant que l'église est le bailleur du géant américain. Reportage signé Olivier Bonnel à Rome.
Nous sommes dans le Borgo Pio, à une cinquantaine de mètres seulement de la porte Sainte-Anne, l'une des entrées du Vatican. Ici, les trattoria, pizzeria et autres magasins d'artisanat religieux côtoient les boutiques de souvenirs, souvent tenues par des Chinois, où sont proposées magnettes à l'effigie du pape François ou reproductions en plâtre de la basilique Saint-Pierre. Mais c'est bien le nouveau McDonald's, pourtant discret avec ses stores blancs et ses lettres dorées, qui attire l'attention et a provoqué une vraie fronde dans le quartier. Le propriétaire des murs où s'est installée la chaîne n'est autre que le Vatican, l'APSA, l'administration du patrimoine du siège apostolique, qui loue 30 000 euros par mois. Une peccadille pour McDonald's, Un scandale pour de nombreux habitants du quartier. Moreno Prosperi dirige le comité de protection du Borgo.
C'est vraiment un blasphème. Le McDonald's dans les locaux du Vatican, à deux pas de la Porte Sainte, dans un quartier que nous cherchons difficilement à ne pas dénaturer. Bien au contraire, nous souhaitons lui redonner une identité qui soit basée sur l'artisanat, sur les spécialités romaines. Au fond, celui qui vient à Rome visite deux lieux, le Colisée et le Vatican. Tous ceux qui viennent à Rome viennent dans notre quartier. Cela veut dire que si Rome veut donner une image positive dans le monde, elle peut utiliser le quartier du Borgo pour la transmettre.
Cette image, les commerçants du quartier veulent la préserver, les restaurateurs surtout, directement concurrencés par le géant américain de la malbouffe. Massimo Casali gère une pizzeria à 50 mètres du fast-food.
C'est pas un beau symbole selon moi. Il faudrait maintenir une certaine éthique sur la nourriture italienne, sur les choses d'ici. Mais c'est la mondialisation qui fait qu'un McDo peut ouvrir ses portes quasiment à l'intérieur de la cité du Vatican. Qu'est-ce que vous voulez? Si les cardinaux le permettent, il n'y a rien à faire.
Massimo sait qu'avec l'ouverture du McDonald's, les temps risquent d'être difficiles. Il a déjà senti l'impact du fast-food.
Je ne sais pas quoi vous dire. Nous n'avons pas perdu notre clientèle habituelle. La personne qui aime la pizza vient la manger ici. Mais c'est sûr qu'on a perdu le touriste de passage parce que McDonald's offre une garantie de nourriture standardisée et mondiale. Chacun peut savoir qu'il y retrouvera la même nourriture que partout. Nos clients à nous nous donnent la possibilité de survivre, mais ce sera sans doute pas suffisant pour durer, malheureusement.
Si certains estiment que la présence d'un McDonald's est bon pour la ville de Rome, d'autres ont souhaité aller au-delà des polémiques. C'est le cas de l'ONG Medicina Solidale, qui vient en aide aux plus démunis. Elle a demandé au géant américain de faire un geste. Désormais, une fois par semaine, ses volontaires distribuent un menu aux nombreux sans-abri du quartier. Ce samedi matin, une cinquantaine de repas sont distribués par l'ONG à une dizaine de minutes à pied de la place Saint-Pierre. Petro Proietti est le porte-parole de Medicina Solidale.
Avec McDonald's, nous avons passé un accord selon lequel ils nous fournissent des menus complets qui comprennent un cheeseburger, une bouteille d'eau et des fruits. Aujourd'hui, par exemple, nous avons des kiwis et des pommes. Là, nous avons distribué une trentaine de repas dès 9h30 et nous espérons tous les distribuer d'ici l'heure du déjeuner.
Pour la petite ONG, le scandale du McDo du Vatican n'a pas lieu d'être. Franco Russo est le président de Medicina Solidale.
Pour être honnête, toutes ces polémiques ne m'intéressent pas. Si le Vatican a fait ce choix, c'est qu'il avait sûrement de bonnes raisons. Que je sache, McDonald's ne vend pas des armes, mais produit de la nourriture. Ces polémiques regardent l'état de la cité du Vatican et McDonald's. Nous, nous travaillons pour les pauvres, on ne regarde pas qui nous donne la nourriture. Ces initiatives sont bienvenues si elles peuvent secouer un peu la torpeur de notre ville sur ce problème aussi important.
Si cette initiative de charité est saluée, certains dans le Borgo ne manquent pas d'y voir de l'hypocrisie. C'est le cas de Moreno Prosperi.
McDonald's donne gratuitement des sandwichs avec un objectif marketing, seulement pour l'image. Ces hamburgers ne sont même pas distribués au restaurant lui-même. Mais McDonald's n'est pas le seul à le faire. Nous, habitants et commerçants du quartier, donnons tous les jours des vêtements, de la nourriture ou de l'argent aux sans-abri. La seule différence, c'est que nous n'allons pas le crier sur tous les toits, dans le journal.
Depuis l'ouverture du fast-food, il y a une voix que l'on n'entend plus, celle des cardinaux. 7 d'entre eux habitent pourtant dans le même bâtiment. Mais les polémiques ne sont peut-être pas finies puisqu'un magasin Hard Rock Café a ouvert à quelques mètres de la place Saint-Pierre dans un immeuble appartenant lui aussi à l'APSA. Il a remplacé une librairie religieuse.
Après des années de débats, l'église protestante de Norvège, majoritaire dans le pays, a pris une décision inédite. Les couples homosexuels pourront désormais recevoir le sacrement du mariage à l'église. Pour en parler, on retrouve à Oslo Grégory Tervel. La réforme sera donc en vigueur dès demain, le 1er février.
Et oui, et en fait, le premier mariage homosexuel à l'église en Norvège aura lieu dès ce soir, à minuit précise, c'est-à-dire au moment même où la nouvelle liturgie de mariage entrera en vigueur. Les deux hommes qui vont ainsi s'unir devant un pasteur vivent ensemble depuis 36 ans et ils ont indiqué qu'ils avaient tellement attendu ce jour qu'ils ne souhaitaient pas patienter une seconde de plus. Le synode de l'Église luthérienne de Norvège, sorte d'assemblée générale responsable de son gouvernement, a donc adopté une nouvelle liturgie de mariage par 83 voix contre 29. Concrètement, cette liturgie ressemble beaucoup à l'ancienne. Les textes ont simplement été adaptés, notamment en supprimant les notions d'homme et de femme et en utilisant des textes de la Bible qui conviennent à tous les couples. Ceux qui le souhaitent pourront d'ailleurs continuer d'utiliser l'ancienne version liturgique.
Et comment réagissent les Norvégiens à cette nouveauté ?
Alors beaucoup ont exprimé leur grande joie hier, parlant d'un jour historique. En fait, cette décision était attendue, elle est la suite logique du synode de l'an dernier et même des élections de 2015 où les Norvégiens membres de l'Église avaient élu une majorité de représentants favorables au mariage religieux des homosexuels. Mais la question reste controversée au sein de l'Église. Un pasteur de la région des Fjords à l'ouest du pays a démissionné hier. Et l'un des membres du synode s'est même désinscrit de l'Église norvégienne. Il reste donc une minorité pour qui unir deux personnes de même sexe reste contraire à la conception du mariage religieux. Les pasteurs pourront d'ailleurs refuser à titre personnel de célébrer un tel mariage, mais ils ne pourront pas s'opposer à ce que le mariage ait lieu dans leur Église.
Et Grégory, la Norvège n'est pas le premier pays à autoriser le mariage homosexuel religieux.
Non, c'était déjà le cas en Suède et au Danemark, deux autres pays voisins, scandinaves et majoritairement protestants. En Norvège, les droits des homosexuels ont considérablement évolué en quelques décennies, puisque l'homosexualité était punie par la loi jusqu'en 1972, il y a 45 ans. Le mariage civil et l'adoption ont été autorisés en 2009, et l'Église de Norvège permet aussi l'ordination de pasteurs homosexuels.
Merci Grégory Tervel à Oslo en Norvège.
Biti će inaugurirana nova. Čeni građani, za koju minutku biti će inaugurirana nova vlast. Nažalost, mi u Živom zidu imamo jedan, pa ja bih ga čak nazvao opravdani strah da ta vlast neće učiniti za građane ništa više nego što je za nju učinila i ona prethodna vlast.
C'est une figure politique populiste et anti-système qui monte. En Croatie, le jeune député Ivan Pernar agace terriblement ses collègues du Parlement, mais ses provocations incessantes sur les réseaux sociaux séduisent une part de plus en plus large de l'électorat. Son portrait signé Simon Rico.
En photo de couverture de sa page Facebook, Ivan Pernar a affiché un selfie entouré de charmantes jeunes filles. Avec son sourire éclatant et sa coupe au gel impeccable, le jeune député mise sur son physique et son sens de la mise en scène sur les réseaux sociaux pour séduire les foules, surtout les moins de 30 ans. Sur Facebook et Twitter, il s'attaque pêle-mêle à la mondialisation, aux banques ou aux francs-maçons. Mais ses cibles favorites sont avant tout les puissances occidentales, l'UE, l'OTAN et les États-Unis. Ivan Pernar préfère se poser en défenseur de la Russie de Poutine et de la cause palestinienne. Il publie aussi des liens vers des médias très proches des cercles complotistes. Reprenant les théories de sites salafistes, il a par exemple qualifié de mise en scène l'attentat de Berlin en décembre. C'est en 2011, à 25 ans, qu'Ivan Pernar s'est fait connaître. Via les réseaux sociaux déjà, il invitait les gens à descendre dans la rue contre le gouvernement conservateur de l'époque. Devenu une sorte de manifestant professionnel, il continue de sillonner la Croatie. Sur son blog, on trouve même un manuel expliquant comment démolir une barricade de police. Après un passage à vide, Ivan Pernar a retrouvé la lumière en devenant l'un des cadres de JVZID, bouclier humain en français, un petit parti anti-système issu de la société civile qui s'inspire du mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo. Depuis son élection au Parlement croate en septembre 2016, chacune de ses apparitions au perchoir fait les choux gras des médias et agace ses collègues députés. Pourtant, si l'on en croit le nombre de likes en constante hausse de sa page Facebook, plus de 130 000 aujourd'hui, son positionnement contre les élites séduit de plus en plus de Croates, lassés par les scandales de corruption qui éclaboussent tous les partis de la classe politique traditionnelle.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission. Restez à l'écoute de RFI. Dans quelques instants, un nouveau point sur l'actualité sur nos antennes.
Autour de la question.